J'ai une très bonne question pour vous. Quels sont les critères qui qualifient un croyant pour occuper un poste dans une église? Demeurez à l'écoute, la parole de Dieu va nous donner une réponse bien claire, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je trouve ça rassurant de savoir que la Bible a la réponse à toutes mes questions. Pas vous? Voici nos questions pour aujourd'hui. Devons-nous être prudents avant d'accepter un poste dans une église? Est-ce que Dieu tiendra davantage responsable ceux qui occupent des postes dans les églises? Est-ce que l'épouse d'un pasteur est un pasteur adjoint? Un croyant handicapé a-t-il tous les droits et privilèges d'un autre croyant? Ceux qui servent Dieu doivent-ils être saints? Est-ce par obligation qu'un croyant est au service de Dieu? Les Saintes Écritures vont répondre à nos questions avec exactitude une fois de plus au cours de cette émission. Le pasteur Régent Joly est avec nous, la Bible en main, et il est prêt à nous donner tout ce bon enseignement qui vient du grand livre de Dieu. Mais avant de l'écouter, demandons à Dieu qu'il nous aide à bien saisir le sens de sa parole. Prions. Oui, Seigneur, on désire comprendre le sens que tu as donné à ta parole. Instruis-nous aujourd'hui, parle à nos cœurs, donne-nous ton enseignement, l'enseignement de Dieu. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Chers amis, dans les chapitres 11 à 20, nous avons vu les lois qui s'adressaient à tout le peuple. Maintenant, les deux chapitres que nous voyons aujourd'hui donnent des lois qui s'adressent aux prêtres ou aux sacrificateurs. Nous ne pourrons pas lire tous les versets, mais vous pourrez compléter la lecture de ces chapitres par vous-même. À l'origine, Dieu désirait que toute la nation soit une nation de sacrificateurs. C'est ce que nous lisons dans Exode, chapitre 19, versets 5 et 6. Leur désobéissance en fabriquant un veau d'or a annulé cette possibilité de la réalisation d'une société parfaite et idéale. Une telle société s'obtiendra pendant le millénium. Toute la nation d'Israël sera un royaume de prêtres pour les autres nations. Pendant le millénium et l'éternité, la race humaine sera divisée en trois. Premièrement, l'Église de Christ qui sera dans la Nouvelle Jérusalem. Deuxièmement, la nation d'Israël, ici-bas sur terre. Et troisièmement, les non-juifs sauvés sur terre. Après l'échec d'Israël, Dieu a réservé le sacerdoce à une seule tribu, celle de Lévi. En Israël, on retrouvait l'assemblée, les prêtres et le souverain sacrificateur. Les positions plus élevées exigeaient un niveau de sainteté plus élevé, puisque les positions donnaient à ses détenteurs une plus grande responsabilité. Aujourd'hui, l'Église de Christ est un sacerdoce royal. Chaque croyant est un prêtre qui a accès au trône de la grâce. Tous les croyants sont appelés à un niveau de sainteté que seul le Saint-Esprit habitant en lui rend possible. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Citation de 1 Pierre, chapitre 4, versets 8 à 11. L'apôtre Pierre a aussi dit, « Vous, Au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. Comme peuple de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans la sainteté. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé, selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens chapitre 4, verset 17, ainsi que les versets 22 à 24. L'enfant de Dieu est sauvé par la grâce et il est appelé à occuper une position élevée pendant sa vie. Une personne devrait y réfléchir avant d'accepter un poste dans l'Église. Si elle obtient une position d'autorité, elle devra prendre ses responsabilités. Une personne qui ne peut pas assister aux réunions de prière ou aux réunions du dimanche ne devrait pas prendre un poste d'autorité. Le privilège que vous avez obtenu vient avec des responsabilités. Servir dans l'Église est un privilège, et nous devons accepter les responsabilités qui viennent avec le poste. Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, a pris toutes ses responsabilités. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait, une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Hébreux, chapitre 7, versets 26 à 28. Le Seigneur Jésus est à la fois le sacrificateur et le sacrifice, car il s'est offert lui-même. Les prêtres et le souverain sacrificateur sont aussi sujets à certaines lois. Chers amis, débutons notre lecture du Lévitique, chapitre 21, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse, « Parle aux sacrificateurs, fils d'Aaron, et tu leur diras, « Un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort, excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour son frère, et aussi pour sa sœur encore vierge, qui le touche de près lorsqu'elle n'est pas mariée. » Ces lois s'adressent aux sacrificateurs. La mort est une conséquence du péché. Donc, les sacrificateurs ne doivent pas se contaminer avec celle-ci. Un contact physique avec un mort contamine le sacrificateur. Donc, un prêtre pouvait se souiller seulement dans le cas d'un proche parent. Alors, le prêtre pouvait exprimer sa peine et ses sympathies. Il doit être une image de Christ, qui a pleuré devant le tombeau de Lazare, et qui est touché par nos douleurs et nos infirmités. Cependant, il ne pouvait pas se souiller lors du décès de qui que ce soit d'autre. Il pouvait pleurer dans son cœur, mais il devait éviter tout contact physique. Verset 4. Chef parmi son peuple, il ne se rendra point impur en se profanant. Puisqu'il occupait une position élevée, il devait se garder du monde davantage que le commun des mortels. Chers amis, bien des pasteurs et des anciens, comme J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, évitent d'aller à certains endroits même s'ils ne sont pas interdits. Puisqu'il exerce un ministère, ils ne veulent pas être une occasion de chute. Les pasteurs, les anciens, les diacres, les enseignants de l'école du dimanche et tous ceux qui ont un poste dans une église devraient être très prudents en ce qui concerne les endroits qu'ils fréquentent, ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Dieu tiendra davantage responsable ceux qui occupent des postes. Verset 5. Les sacrificateurs ne se feront point de tonsures sur la tête, ils ne raseront point les coins de leur barbe, et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Les païens faisaient cela alors qu'ils pleuraient les morts. Les sacrificateurs de Dieu ne devaient pas observer les coutumes païennes autour d'eux. Verset 6. Ils seront saints pour leur Dieu, et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu. Car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu, l'aliment de leur Dieu, ils seront saints. Leur poste, en tant que représentants de Dieu, demandait de la dignité et de la retenue. Ceci est aussi exigé des pasteurs de nos jours, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Tite, chapitre 1, versets 7 et 8. Lévitique, notre chapitre 21, cette fois les versets 7 et 8, nous lisons. Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée, ils ne prendront point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. À cause de sa position, un sacrificateur doit démontrer la sainteté de Dieu, même dans sa vie privée. Il ne pouvait pas épouser une prostituée, une femme déshonorée ou une femme divorcée, car il offre toute sa vie à Dieu. Le prêtre est une image de Christ. De plus, l'Église, qui est formée des croyants, est appelée l'épouse de Christ. Elle doit être purifiée avant d'être présentée à Christ. Les autorités de l'Église doivent être un exemple aux autres en cette matière. Nous devons aussi reconnaître qu'une épouse de pasteur n'est pas un pasteur adjoint. Elle est simplement son épouse, et c'est le seul rôle qu'elle a à tenir. Elle doit se comporter de façon à honorer la position de son mari. Elle n'a pas à jouer du piano ou de l'orgue, chanter dans la chorale ou être présidente du comité missionnaire. Rien ne l'oblige à prendre tous ses postes, même si elle peut s'impliquer dans l'Église, si elle le désire. Verset 9. Si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père. Elle sera brûlée au feu. La punition est très sévère à cause de la position de son père. Versets 10 à 12. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Il n'ira vers aucun mort, il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire, et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. C'est la première mention du souverain sacrificateur. En tant qu'oint pour le service de Dieu, il doit se tenir à l'écart du péché et du monde. Il devait porter une couronne sur laquelle étaient inscrites les paroles suivantes. « Sainteté à l'Éternel !» Ceci lui rappelait qu'il était, à qui il appartenait et qui il servait. Il ne devait pas déchirer ses vêtements sacerdotaux. Il n'était pas un homme violent. Au semblant de procès que l'on a fait à Jésus, Caïphe, le souverain sacrificateur, a déchiré ses vêtements. Il a violé la loi en posant ce geste. De plus, le souverain sacrificateur ne devait pas participer aux funérailles de son père ou de sa mère. Il avait été oint, choisi, et il devait être entièrement consacré à Dieu et séparé du péché à cause de sa position. L'huile d'onction fut répandue sur la tête de Jésus, et il est venu pour faire la volonté de son Père, soit mourir à la croix pour nos péchés. Il demande une telle consécration de la part des véritables croyants. Il faut que ceux qui servent marchent dans la sainteté. C'est le thème principal de cette section. Maintenant, nous avons les items qui disqualifient un Lévite pour un poste de sacrificateur. Ces items se trouvent du verset 16 au verset 24 du chapitre 21. Le texte parle de défauts corporels, tels qu'un nez camu, la cécité, une fracture au pied ou à la main, un homme bossu ou grêle, la gale, une dartre. Pourquoi Dieu donne-t-il une telle loi? Le sacrificateur est une image du Seigneur Jésus, qui était parfait dans sa personne et son œuvre, donc il doit refléter cette image. Notez que ces personnes n'étaient pas exclues de la table du Seigneur. Ils ne pouvaient pas s'approcher ni du voile devant le lieu très saint, ni de l'autel. Cependant, le verset 22 nous dit qu'ils pouvaient manger l'aliment de Dieu, des choses très saintes et des choses saintes. Malgré leur infirmité, Dieu pourvoyait à leurs besoins, ce qui ne se faisait pas dans le monde païen. Nous trouvons une leçon spirituelle pour nous dans ces versets. Chers amis, de nombreux croyants ont des handicaps physiques ou mentaux sévères. Certains ont même des handicaps moraux ou spirituels. Ceci peut les disqualifier pour certains postes dans l'Église, pour certaines possibilités de service. Mais puisqu'ils sont de véritables croyants, ils ont les mêmes droits et privilèges que les autres croyants. Par exemple, quelqu'un qui a un défaut de la voix et qui ne peut parler clairement ne peut aspirer à un poste qui exige de parler en public. Cependant, si la personne est athlétique, artiste, ou si elle a un autre talent, elle peut se rendre très utile dans un ministère de l'Église locale. Des paraplégiques peignent avec leur bouche et réussissent des tableaux superbes. C'est un don utilisable. De plus, ces personnes peuvent être un puissant témoignage. Une jeune femme atteinte d'une maladie affectant le système nerveux écrivait de la poésie louant Dieu à partir de son lit d'hôpital. Elle pouvait à peine bouger une seule main. Ses poèmes étaient lus dans certaines églises de la région d'Ottawa, et de nombreuses personnes furent touchées par ce ministère simple, mais béni par l'Esprit de Dieu. Une personne peu instruite peut aussi se rendre utile dans de nombreuses fonctions à l'Église. Tous peuvent témoigner de ce que Christ a fait pour eux. J'ai déjà connu un schizophrénique devant prendre un médicament témoigner davantage à sa famille que de nombreux croyants bien portants. Si l'on n'a pas tous les mêmes dons, nous avons tous les mêmes droits et les mêmes privilèges dans l'Église du Seigneur. Maintenant, le chapitre 22 du Lévitique explique que les prêtres ne pouvaient pas profaner le nom de Dieu en s'approchant des choses saintes s'ils étaient impurs ou s'ils étaient souillés en touchant quelque chose d'impur. Les maladies, le régime alimentaire et toucher un mort pouvaient rendre une personne impure. Nous n'irons pas dans tous les détails de ce chapitre, que vous pourrez lire par vous-même. Mais son thème est simple. Le voici. Ceux qui servent Dieu doivent être saints. Ils doivent aussi être saints dans leurs relations avec les autres, y compris les relations dans leur foyer, leur vie sociale, en affaires et dans le monde. Ils devraient aussi en être ainsi avec les chrétiens d'aujourd'hui. Un croyant doit être saint dans toutes ses relations familiales, sociales et commerciales. Pourquoi doit-il en être ainsi? Dieu donne la raison. Au verset 31, et c'est ce que nous allons lire de ce chapitre du Lévitique, 22e chapitre, verset 31 à 33. Vous observerez mes commandements et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Vous ne profanerez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie, et qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel. Voilà. Les prêtres étaient les témoins de Dieu auprès de la nation. Ils n'étaient pas appelés vers toutes les nations de la terre, comme nous le sommes aujourd'hui. C'est en tant que nation qu'Israël servait Dieu. Alors, cette nation faisait cela. Le monde entier était attiré vers Jérusalem. Le saint nom de Dieu devait être présenté dans chaque rituel religieux, chaque geste d'adoration de cette nation. Les versets nous donnent 5 raisons d'obéir. La première raison, je suis l'Éternel. Deuxième, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Troisièmement, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Quatrièmement, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Et cinquièmement, votre Dieu. Les enfants de Dieu ont une liberté en Christ, mais celle-ci ne leur donne pas le droit de vivre dans le péché et de profaner ainsi le nom de Dieu. Nous devons manifester avec zèle la sainteté et la justice de Dieu dans notre adoration. C'est ce que nous sommes devenus par le fait même. En plaçant notre foi dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, nous sommes devenus des adorateurs. Qui vous a fait sortir du pays d'Égypte? C'est Dieu qui nous a sauvés. Il nous a sauvés par grâce. C'est lui qui est venu vers nous. Il ne nous a pas sauvés dans le but que nous le compensions en travaillant pour lui. En effet, cela ne serait plus de la grâce. La grâce n'exige pas de paiement. Cependant, permettez que je vous pose une question. Oui, à chacun d'entre vous. Aimez-vous Dieu? Voulez-vous le servir? Une épouse ne prépare pas un souper à l'occasion de l'anniversaire de son mari parce que c'est son devoir, mais parce qu'elle aime son époux. Le véritable croyant va servir Dieu avec joie, car il l'aime. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie et qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Cher ami, est-il ton Dieu? Si oui, tu es devenu la lettre de Dieu pour ces gens qui t'entourent. Qu'est-ce que ces gens peuvent y lire? Est-ce qu'un message clair et précis peut sortir de ta vie dans ton quotidien? Ou s'il est embrouillé par un péché. Tu n'as qu'à lui confesser, qu'à le reconnaître, et par le fait même de retrouver le message intact de l'Évangile, la bonne nouvelle de la grâce que Dieu veut manifester à travers ta vie pour ces gens qui t'entourent jour après jour, afin qu'eux aussi puissent goûter et lisent le merveilleux message que Christ est venu porter à l'humanité. C'est ta vie et la mienne qu'ils lisent. Que lisent-ils en toi et en moi? Cette vérité, chers amis, nous est précisée dans les Saintes Écritures, dans l'Épître de Paul, sa deuxième Épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 3, nous lisons. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Voilà où est-ce que Dieu veut buriner son message. Chers amis, préparons-nous à la prochaine émission en lisant Lévitique chapitre 23.
Merci Régent. Quel bel exemple on a eu aujourd'hui de la grâce de Dieu. On a vu que Dieu nous a sauvés, mais que ce n'était pas dans le but qu'on le lui rende en travaillant pour lui. On a vu que la grâce n'exige pas de paiement. Une grâce, c'est un cadeau qu'on ne mérite pas. Mais aussi, on a vu qu'il est tout naturel pour le véritable croyant de servir Dieu avec joie, simplement parce qu'il l'aime. Je me rappelle du 6 août 1977 comme si c'était hier. Je venais tout juste de recevoir Jésus-Christ comme sauveur. mais il est aussi devenu mon Seigneur, c'est-à-dire mon Maître. Oh, je ne comprenais pas vraiment le sens du mot Seigneur à ce moment-là. Mais je me souviens de lui avoir dit, « Mon Dieu, prends tout mon cœur. » Et il l'a fait. J'étais tellement reconnaissante envers lui, je l'aimais tellement que j'étais prête à faire tout ce qu'il me demanderait à partir de ce jour. Premièrement, il a fait du ménage dans ma vie. Par exemple, j'ai cessé de consommer de la drogue, de faire des abus d'alcool. J'ai quitté un amant que j'aimais simplement parce que Dieu me montrait que je n'avais pas le droit d'avoir un homme marié dans ma vie. J'ai cessé de mentir, réalisant que même les soi-disant mensonges pieux étaient interdits dans la loi de Dieu. J'ai cessé de prendre le nom de Dieu en vain. En bon Québécois, j'ai arrêté de sacrer. Et ce qui est le plus extraordinaire dans tout ça, c'est que ce ne sont pas des personnes qui m'ont dit que je devais faire ces choses, mais c'est l'Esprit de Dieu qui habitait maintenant en moi. Quand on a une bonne relation avec Dieu et qu'on désire sincèrement accomplir sa volonté, il nous révèle tout ce qu'il attend de nous. Et ensuite, Dieu s'est mis à me montrer les œuvres qu'il désirait accomplir à travers moi. L'une d'entre elles, c'était de dire aux gens que je connaissais ce que Jésus venait de faire pour moi. Et je me suis mise à dire à ma famille, à mes collègues, à mes amis, à mes voisins, et même à de purs étrangers, que j'avais un sauveur merveilleux qui venait de me donner la vie éternelle, simplement parce que je croyais en lui, en son sacrifice rédempteur à la croix. Et je me suis mise à inviter les gens à recevoir Jésus comme leur sauveur, leur Seigneur. Aussi, j'ai réalisé que Dieu m'appelait à le servir avec le don musical qu'il m'avait donné. J'ai décidé de quitter le domaine artistique dans le but de chanter pour la gloire de Dieu et non pour la mienne. Quelle joie de servir Dieu par amour et non par obligation. Dieu ne nous oblige pas à le servir. Il ne nous oblige pas non plus à recevoir le salut qu'il nous offre gratuitement. J'aime beaucoup le verset dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, verset 24, où Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Jésus dit, « Si tu veux venir après moi. » Il ne dit pas, « Je te force de venir après moi. » En ce moment, Jésus offre aux croyants de faire un pas d'amour pour le servir. Soit comme pasteur, comme ancien, comme diacre, comme évangéliste, comme animateur de culte, comme chantre, professeur à l'école du dimanche. Dis oui au Seigneur. Par amour.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Mais qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, devons répondre à la question.
J'aimerais savoir, j'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu.
Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie.
Oui.
Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie.
Maintenant, nos auditeurs en bénéficient.
Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie.
C'est merveilleux.
Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures.
Ouais.
Des chrétiens évangéliques.
Oh là là.
Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie.
C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, via courriel.
www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. À demain.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.